c'est à la fois un autre chapitre, si je puis dire, et en même temps, c'est évidemment en rapport avec ce que nous avons déjà vu, de ce que sont nos blessures personnelles, toutes nos difficultés intérieures, tout ce qui vient de notre propre existence, de notre histoire personnelle. Et puis hier, nous avons plutôt vu ce qui se passe au niveau de notre couple, la façon dont nous avons à la fois des blessures personnelles et aussi des blessures de couple. Les conflits, comment se passent ces conflits. Alors ces conflits, vous vous rappelez qu'ils sont quand même une bonne chose, parce que la crise en soi-même est une bonne chose, parce qu'elle est là pour révéler, bien sûr, elle révèle un mal-être, mais elle révèle aussi, elle est une invitation, la crise, à se laisser bousculer, parce qu'il y a des changements qui s'annoncent. Et comme il est beau et intéressant, c'est ce que nous allons faire aussi cet après-midi, de comprendre comment il y a cette ouverture qui se fait, malgré des souffrances et des blessures, une ouverture qui est un appel au couple à retrouver une nouvelle communion à partir du pardon et de la réconciliation. Ce qui veut dire en introduction qu'on n'est pas dans ce registre, encore une fois, du tribunal, où on cherche à savoir qui a tort et qui a raison. On peut s'user à cela, mais ça ne donne pas de bons résultats, la plupart du temps. Il y a un autre registre, et c'est de celui-là dont on va parler aujourd'hui, qui est le registre du pardon. Le registre qui ne consiste pas seulement, parce que c'est intéressant à faire, seulement à chercher les causes de nos conflits, mais à changer l'attitude que j'ai par rapport à cette situation qui nous pèse à tous les deux. Je ne cherche pas à savoir qui est le responsable, je cherche à trouver le chemin qui va nous faire accepter ce que nous sommes, ce que nous vivons. Et donc ça, c'est le pardon, qui n'a rien à voir avec le droit, mais qui a à voir avec le devoir. Surtout quand on est chrétien. Pardonnez-vous mutuellement, on le retrouve à différents endroits de la Bible, chez saint Paul en particulier. Je vous cite Anne Roumanoff, c'est une plaisante humoriste féminin intéressant et qui est très très juste souvent dans ce qu'elle peut dire. Si tout le monde arrivait à se pardonner, les avocats et les psys feraient faillite. Pardon, mais heureusement qu'il y a des avocats, parce que justement, on n'arrive pas à se pardonner bien souvent, malheureusement. De fait, première question, y a-t-il de l'impardonnable ? Y a-t-il de l'impardonnable ? Déjà, en entrée de jeu, il ne faut certainement pas partir sur le fait que, oui, mais moi, vous comprenez, ce qui s'est passé entre nous, ça, c'est pas possible, je ne le pardonnerai jamais. C'est accepter qu'il y a de l'impardonnable. Or, tout peut être pardonné. Je dis bien tout, tout, tout. La seule difficulté, c'est que ça peut être très, très, très difficile. Mais tout, tout, tout peut être pardonné. Ça, c'est un axiome. Il faut partir de là. Je ne dis pas que vous y arriverez facilement. Il faudra peut-être beaucoup de temps. Mais jusqu'à votre lit de mort, ça pourrait être pardonné. Ça veut dire qu'au bout du compte, tout peut être pardonné. Vous voyez, il y a des choses, je pense au viol, je pense à des histoires dramatiques qui peuvent nous atteindre, façon dont nos enfants peuvent mourir brutalement. Il y a des adultères que l'on n'arrive pas à pardonner parce qu'on estime que la façon dont ça s'est passé, c'est impardonnable. Pourtant, je répète, tout est pardonnable. Le pape François, dans toujours cette belle lettre encyclique, la joie de l'amour, numéro 236, il porte un regard très fin sur cette question du pardon dans le couple. Tandis qu'il tente de faire le pas du pardon, chacun doit se demander avec une sereine humilité s'il n'a pas créé les circonstances qui ont conduit l'autre à commettre certaines erreurs. Certaines familles succombent lorsque les conjoints s'accusent mutuellement.